Olivier Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Casa Invest, qui est une société de conseil pour les investisseurs et les fonds d'investissement. Vous êtes également enseignant à Dauphine, à HEC et au CNAM, spécialiste notamment des pays émergents et de capital investissement dans ces pays émergents. On parle beaucoup de crise de la zone euro. Souvent, quand on rencontre les investisseurs, tout de même, ils nous parlent de ces pays émergents, ils nous parlent de la croissance, certes un peu plus faible en ce moment. Le capital investissement s'est bien développé sur ces pays émergents. Il y a une demande d'investissement.
Alors, le capital investissement, c'est quelque chose qui est très ambigu parce que c'est à la fois très ancien, on donne la paternité du capital investissement à Christophe Colomb, et en même temps très récent puisque dans sa forme actuelle, ça a été développé il y a une cinquantaine d'années. Pour les pays émergents, c'est encore plus visible puisque le capital investissement dans les pays émergents en tant que tel ne peut être identifié que depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années pour les précurseurs qui sont notamment des structures qui ont été exclusivement adossées à de ces grands organismes multilatéraux ou bilatéraux tels que la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement. Donc en effet, il y a par rapport à la décroissance que nous observons dans le monde sur les levées de fonds destinées au capital investissement, une tendance qui est quasiment inverse, même si elle est incluse dans ce grand mouvement, qui sont les fonds qui sont fléchés vers les pays émergents pour des questions en effet de croissance portée et de croissance du PIB, dont les investisseurs pensent que d'une façon ou d'une autre, cela bénéficiera aux sociétés de leur portefeuille.
Il y a eu tout de même un impact de la crise, on va dire mondiale, hein, puisque elle était mondiale, c'est la crise financière sur les fonds levés, sur effectivement les montants adressés à ces pays émergents.
Oui, en effet. Il y a eu en fait un phénomène, mais qui a eu un temps de retard, notamment parce que la façon dont ces économies fonctionnent a joué un peu comme un pare-feu sur les canaux habituels de transmission de la crise, notamment les interpénétrations financières et puis les investissements directs étrangers et la mondialisation des marchés qui sont adressés. Donc, vous avez raison, depuis 2011, on remarque qu'il y a un ralentissement net sur les investissements destinés au capital investissement dans les pays émergents. Mais néanmoins, sur les années qui ont précédé, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, la tendance était très nettement haussière, alors que dans le même temps, le montant des fonds qui avaient été drainés pour le capital investissement en général avait été réduit du tiers.
Alors, quand on parle des pays émergents, on pense aux BRICS, aux fameux, effectivement, BRICS. Et puis, il y a aussi les pays proches de la Méditerranée. Est-ce que les investisseurs ont été d'abord sur ces pays, les BRICS, les fameux BRICS, effectivement, et un peu plus tardivement sur les pays du Maghreb, notamment?
C'est précisément ce qui s'est passé. Les BRICS, pour des raisons de taille, de granularité, de visibilité et j'allais dire de mythologie, ont, depuis maintenant au moins une décade, attiré beaucoup l'intérêt et l'attention des investisseurs, y compris les investisseurs boursiers, parce que les places boursières y sont accessibles et d'une certaine façon, ça a permis au capital investissement de s'acclimater au mode de fonctionnement de ces pays. Et parallèlement à ça, dans une démarche qui est plus, j'allais dire, fondée sur l'économie réelle, donc plus du bottom-up, il y a eu, par rapport aux besoins et aux gisements de croissance exceptionnels des pays émergents qui étaient moins exposés que les BRICS, il y a eu en effet des initiatives d'abord multilatérales et puis de plus en plus régionales, voire locales, qui se sont construites, mais dans une démarche de mon point de vue, beaucoup plus proche du terrain, parce que répondant à des besoins qui sont émis par les PME plus que par des grandes volontés politiques de s'arrimer en termes de croissance à des pays dont on sait qu'ils présentent une très forte traction.
Justement, les investissements concernent en priorité les PME dans ces pays, sont les PME de taille moyenne, ou voire certaines qui ont déjà une envergure internationale.
Alors, l'investissement des PME, enfin, dans les PME des pays émergents, c'est, j'allais dire, le Graal. Et c'est un dénouement d'une séquence de vagues qui commence en général par l'immobilier, d'abord l'infrastructure, ensuite l'immobilier, l'hôtellerie, donc des choses qui sont, ou des actifs sous-jacents qui sont rassurants du point de vue de l'investisseur. Ensuite viennent des entreprises cotées lorsque des places boursières existent. Et enfin, des entreprises non cotées. Et là encore, il y a un effet de séquence, les PME n'arrivant qu'en bout de chaîne, et éventuellement les start-up après elles. Donc il a fallu qu'il y ait cette acclimatation par vagues successives qui permettent finalement de damer le terrain. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est que même si l'intérêt pour les PME des pays émergents arrive en fin de cycle pour les raisons qu'on a dites. C'est aussi le point de contact de deux dynamiques qui sont extrêmement positives et qui s'empilent, qui se composent. D'une part, les PME qui sont désormais, c'est une vérité révélée et partagée, les PME sont les moteurs des économies, disséminées un peu partout. 70% à peu près en volume dans les économies avancées, elles atteignent facilement 90 voire 95% dans les pays émergents. Et d'autre part, au niveau macroéconomique, les pays émergents sont les moteurs des nations. Et donc, même s'il a fallu ces différentes vagues d'acclimatation, on est maintenant, de mon point de vue, au cœur du dispositif qui consiste à s'intéresser et à financer des PME dans les pays émergents.
Est-ce qu'on retrouve les mêmes critères que l'on a dans les pays dits matures, effectivement, pour le capital investissement dans ces pays émergents, on va dire les relations avec les actionnaires, la gouvernance, est-ce qu'il y a des points clés justement qu'on retrouve?
Alors, c'est un sujet qui est passionnant, à telle enseigne que j'ai créé cette année à Dauphine un cours spécifiquement Emerging Markets Private Equity qui prouve que à la fois il y a un besoin des étudiants, une prise de conscience de la sphère académique et un manque. Le débat n'est pas tranché. Il y a finalement deux écoles qui s'affrontent, voire trois. Il y a une première école qui consiste à dire on fait du copier-coller, même s'il faut passer en force, de ce qui a bien marché dans les pays et dans les économies avancées. Bon. Donc, ça veut dire qu'à moyen ou à long terme, au moment où les économies seront matures de ce point de vue-là, les LBO pourront prendre le dessus comme ils le font dans les économies avancées. L'autre école est à l'opposé et elle dit, d'une certaine façon avec une posture très relativiste, elle dit rien de tout ce que les économies avancées ont pu expérimenter ne peut s'appliquer pour des questions culturelles, sociales, de topographie simplement. De capitalisme familial, de poids de l'informel, et la liste est longue des critères différenciants pour ne pas parler de sujets qui sont plus délicats tels que la corruption. Entre les deux, le résultat de mes réflexions, c'est qu'il y a probablement une source d'inspiration forte qui existe déjà dans les économies avancées, qui est le capital risque. Pour une raison très simple que j'aimerais développer ici, c'est que si on prend un raccourci, financer une entreprise stable dans un pays émergent ressemble étrangement au fait de financer une entreprise émergente dans un pays stable. Et donc, si on voit les choses avec une forme de recul, on se rend compte que ce qui finalement s'avère structurant, c'est plutôt l'émergence que le positionnement géographique. Et dans ce cas-là, l'émergence, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a au moins trois formes d'émergence. Les jeunes sociétés, qu'elles sont émergentes parce que c'est une émergence sociétale, sont jeunes. Les sociétés technologiques, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, une émergence parce que, là encore, les produits et les marchés sont en pleine naissance. Ou les émergences souveraines, ce qu'on a coutume d'appeler les pays émergents, donc ces fameux 150 pays sur 184 dans le monde. Et du coup, quand on chausse ces lunettes qui marchent un peu comme des rayons X, on se rend compte que les points d'analogie sont multiples entre une start-up qui serait, par exemple, dans la banlieue parisienne et une entreprise mature qui aurait plusieurs décades d'existence, qui serait rentable et solide, mais qui serait dans un pays où l'attraction vient de la sphère macroéconomique.
En conclusion, peut-être pour les investisseurs, on voit bien que après les grands espoirs du printemps arabe, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup à nouveau de questions sur l'évolution des pays. Alors on peut citer la Tunisie et l'Égypte, hein, rapidement. Pour les investisseurs, il y en a peut-être qui se disent, ça va pas être facile, ça va être compliqué à nouveau d'investir dans ces pays. Quel dialogue vous avez avec eux?
Alors, effectivement, face à ce constat qui est un constat qui exacerbe les risques à court terme, il faut, de mon point de vue, intégrer le fait que ce qui est consubstantiel de l'émergence, ce sont les turbulences. Et ces turbulences, elles sont particulièrement fortes en début d'aventure, en début de cycle. Elles peuvent tuer, mais quand on arrive à passer outre, elles se révèlent être finalement les prérequis ou les éléments prérequis pour avoir cette forte traction. Donc, ma réponse, elle est double. D'une part, l'investisseur qui décide de s'exposer aux pays émergents ne le fait pas exclusivement pour un TRI pécuniaire. Il le fait parce que, ou en son sein même, ou quand il est agrégé avec ses co-investisseurs, il y a une vision à la fois de plus-value pécuniaire et de plus-value sociétale. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que le TRI financier n'est pas l'alpha et l'oméga de qui va, à notre époque, hein, dans 20 ans, le discours sera différent, mais à ce stade de maturité de ces économies, qui décide de s'exposer aux pays émergents, a cette dualité dans ses objectifs. Premièrement. Deuxièmement, la réponse est également une réponse de granularité de l'investissement. Lorsqu'on décide de s'exposer aux pays émergents, on joue aussi la diversification du risque. On joue la diversification du risque parce que la décorrélation est très forte avec des actifs, des classes d'actifs auxquelles on est en général exposé. Donc, j'allais dire, ce mélange entre optimisation du risque et de la rentabilité et puis une vision qui n'est pas exclusivement focalisée sur le TRI. Et je rajoute un dernier élément, la maturité des fonds qui est en général de 10 ans. Tous ces trois éléments-là se combinent pour que, de mon point de vue, les investisseurs aient la sagesse de voir ces turbulences, même si elles sont très fortes, avec une certaine relativité et se dire que même si le premier millésime sera endommagé en partie par ces turbulences, il est nécessaire pour que le millésime suivant fasse une performance supérieure.
Bien, on le souhaite. Merci Olivier Younès d'avoir fait le point avec nous. En fait, vous êtes donc fondateur de Casa Invest et donc professeur à HEC Dauphine et au CNAM. Merci.
Merci à vous.